C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, que nous lirons les mots qui nourriront notre méditation ce matin. Il s'agit de l'épisode de Sodome et Gomorre. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est ce texte que j'ai choisi. Je vous rappelle juste le contexte. Abraham, Lot et sa famille sont dans la région de Sodome et Gomorre, Lot tout particulièrement qui y demeure. Et c'est une ville qui pose problème. Quelle est la nature du problème de Sodome ? J'apprécie assez l'interprétation juive qui dit que les habitants de Sodome avaient cette fâcheuse tendance à vouloir que tout soit semblable, tout soit conforme à l'idée qu'ils se faisaient de l'identité humaine. Quand un homme arrivait, un étranger, il le mettait dans un lit et s'en occupait. S'il était trop grand, il le taillait pour qu'il entre juste dans le lit. S'il était trop petit, il l'écartelait jusqu'à ce qu'il ait la bonne taille. Sodome comme figure du semblable, du conforme, de l'unique. Et voici ce que le chapitre 19 du livre de la Genèse nous rapporte. Deux anges, deux messagers de Dieu donc, arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. » Le verbe « connaître » dans la Bible évoque des relations sexuelles. Adam connut Ève, sa femme, et ainsi naquit Abel. Donc il s'agit pour les habitants de Sodome, manifestement, de vouloir abuser sexuellement des étrangers qui sont chez Lot, en tous les cas, les mettre dans le lit. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » J'espère que vous êtes bien assis. Voici la stratégie de Lot. « Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville ?» « Fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, Les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Lot leur dit « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie. Ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie. Voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite? Et que je reste en vie. » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est la phrase clé pour cette prédication. « Je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui signifie « petit ». Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Quant à la femme de Lot, elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Bien, après un tel texte, nous allons avoir besoin un peu de l'aide de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le cantique 222 sera tout à fait approprié pour y trouver refuge. Nous chanterons bien évidemment les quatre strophes du cantique 229 que je vous laisse découvrir, car vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce numéro magique.
Thank you.
Éternel, notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin, plutôt qu'à l'écoute de ce que nous avons toujours cru, pensé, entendu. Accorde-nous la grâce du silence intérieur, pour que ce soit ta parole qui nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne une parole qui nous aide à mieux te comprendre et à mieux comprendre notre vie. Chers frères et sœurs, le réformateur Jean Calvin fait souvent figure d'épouvantail dans la grande assemblée des réformateurs. Il donne le sentiment d'être le témoin d'un Dieu terrible, effrayant, qui, du haut de sa majesté glorieuse, écraserait la liberté de l'homme et réduirait en poussière toute prétention à être acteur du cours des événements. Calvin fait figure d'épouvantail parce qu'il aurait agi à la manière de la divinité qu'il présente, tel un tyran assoiffé de pouvoir qui ne laisse à personne le soin de s'exprimer différemment de lui. Le poète Stefan Zweig, par exemple, en fait un archétype du dictateur ouvrant la voie à ceux que le XXe siècle n'aura que trop bien connu. Certes, Calvin est un homme du Moyen-Âge, et nous ne saurions recevoir son héritage sans exercer quelques droits d'inventaire. Mais Calvin a aussi un pied dans la modernité, et c'est ce pied qui peut nous intéresser aujourd'hui, car il ouvre une voie que peu de personnes soupçonnent, une voie qui nous conduit à une expression assez contemporaine de la foi chrétienne. Et j'aimerais vous montrer, même si cela peut vous sembler assez saugrenu, j'aimerais vous montrer que le théologien Jean Calvin annonce le théologien Wilfred Monod. Et à sa suite, bien des théologiens libéraux. Pour ce faire, il nous faut ouvrir un aspect méconnu de l'œuvre de Jean Calvin, qui vient d'être récemment édité en français par Marc Fessler, un ouvrage qui n'est pas indispensable dans votre bibliothèque, mais qu'il est intéressant de consulter. Il s'agit de la réponse de Jean Calvin aux questions et objections d'un certain juif. Ces 23 questions et objections ont été rédigées à la suite d'une traduction en hébreu de l'Évangile selon Matthieu par le rabbin Shem Tov ben Isaac ibn Shaprouk en 1385 et qui fut rééditée en 1555, et c'est donc cet exemplaire-là que Calvin a pu avoir sous les yeux. Théodore de Bèze l'édite quelques années après la mort de Calvin, mais en latin, et c'est la première édition en français qui vient de sortir. Je retiens la question 19. Voici la question posée par un certain juif. Si Jésus fut Dieu, pourquoi, tandis qu'il priait, dit-il à son Père, qu'il fasse selon sa volonté ? Une sorte de dessaisissement. Si Jésus est Dieu, pourquoi renverrait-il la responsabilité à quelqu'un d'autre ? De là, il apparaît, qu'il n'avait pas en sa main un pouvoir par lequel il eût pu faire toute chose. Il agissait seulement à partir de la volonté de son Père, non à partir de son propre pouvoir. Et voici la réponse de Calvin qui va convoquer précisément l'épisode biblique que nous avons relu. Et que retient-il de cet épisode biblique ? Je le cite. Lorsque l'ange descendit auprès d'Abraham et de Lot et qu'il se fit juge de Sodome, est-ce qu'il revendiqua l'entier du pouvoir de Dieu alors que peu après, il affirma ne rien pouvoir faire jusqu'à ce que Lot soit sorti. Est-ce que la force de Dieu n'était pas ligotée à la décision d'un homme, écrit Calvin, et sa main retenue jusqu'à ce qu'un humain mortel donne son approbation ? Voyez-vous, en convoquant ce texte biblique, Jean Calvin ne présente pas un Dieu tout-puissant qui pourrait accomplir ce qu'il veut. Et si nous reprenons le texte de la Genèse au verset 22, nous y lisons effectivement cette phrase assez inouïe pour les tenants d'une toute puissance divine : « Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » Le texte hébreu ne dit pas que le divin ne fera rien tant que Lot ne sera pas à l'abri, mais bien que le divin ne peut rien faire tant que Lot n'est pas arrivé. Le divin voudrait bien, mais il ne peut pas. Il n'est pas capable, selon le sens du verbe hébreu « yakol ». Il n'est pas capable. Alors, est-ce un Dieu si terrible, celui qui est ligoté à la décision d'un homme ? Est-ce un Dieu tyrannique, celui dont l'action est retenue jusqu'à ce qu'un humain mortel donne son approbation ? Il me semble que dans sa réponse, Calvin fait droit à un aspect de l'Éternel aujourd'hui encore assez méconnu, sinon ignoré ou refusé. 400 ans avant Wilfred Monod, nous avons là, noir sur blanc, mais en latin, les prémices de ces pages d'exception que nous trouvons dans le recueil intitulé « Aux croyants et aux athées ». Lorsque Wilfred Monod affronte la question du mal et la question de la responsabilité de la part de Dieu dans la gestion des souffrances humaines, et Monod écrit, vous connaissez le fameux dilemme, où Dieu peut, sous-entendu, faire quelque chose contre cela et ne veut pas, où il veut et ne peut pas. La foi en la paternité divine, ajoute-t-il, nous oblige à choisir le deuxième terme de l'alternative, il veut et ne peut pas. Et un peu plus loin, Wilfred Monod toujours écrit, j'appelle Dieu l'effort partout manifesté pour transformer la réalité. C'est un effort intelligent, moral, douloureux, sans cesse contrecarré, mais dont les progrès s'affirment de plus en plus. Cet épisode biblique, assez terrible, assez douloureux, révèle en fait l'Éternel littéralement incapable d'agir. Nous pourrions dire qu'il est impuissant en quelque sorte, comme il le fut lors de la crucifixion de Jésus, incapable d'empêcher ce qui n'aurait pas dû arriver. Comme il le fut aussi tout au long de l'histoire du christianisme notamment, incapable d'empêcher les guerres de religion, incapable d'empêcher les persécutions, incapable d'empêcher le dogmatisme autoritaire. Pour ne prendre qu'un terrain d'observation mineur, celui que nous connaissons peut-être le mieux, parmi d'autres autrement plus importants de l'histoire humaine. Dieu est ligoté, écrit Calvin. Dieu n'est pas tout-puissant, écrit Monod. Mais ne détruit-il pas Sodome malgré tout ? À la manière d'un despote franchement peu éclairé, qui écraserait comme cela sous son doigt ce qui ne lui convient pas. Sur le plan historique, si Dieu détruisait ce qui ne lui convient pas, la comptabilité serait assez redoutable, tant il y a de choses contraires à l'Évangile. Sur le plan théologique, Dieu n'est pas celui qui détruit. Il est celui qui sauve, celui qui rachète, celui qui relève, celui qui ressuscite. Mais à Sodome, que s'est-il donc passé ? Une sorte de parenthèse dans l'histoire de Dieu, un faux pas, un peu le Michel Servet de Jean Calvin ? Tout porte à penser que, dans le cas de Sodome, Dieu punit de la peine capitale sans exercer la moindre miséricorde, sinon en faveur de Lot et de sa famille. Une sorte de double prédestination basique. Lot est voué au salut et les habitants de Sodome voués à la damnation éternelle. Je pense que si c'est cela qui occupe notre esprit, c'est parce que notre esprit précisément a encore besoin d'être réformé. C'est parce que nos idées religieuses ont encore besoin de se dégager de la gangue dans laquelle elles ont été plongées par des siècles d'élucubrations sur Dieu, qui arrangeait peut-être les tenants d'un autoritarisme ecclésial, pouvoir maintenir les consciences captives de la parole du clerc, mais qui n'avait rien à voir avec la révélation biblique. Car, outre ce verset 22 qui souligne que Dieu ne peut pas tout, il faut aussi mettre en évidence le verset 16 qui raconte comment les messagers de Dieu emmènent Lot et sa famille en les prenant par la main. Le texte hébreu dit que cela est fait avec miséricorde. Autrement dit, le texte biblique garde la trace que Lot aurait très bien pu résister à cette main tendue. Il aurait très bien pu ne pas se laisser emmener tant cette main tendue était délicate, respectueuse de sa personne, incapable de le prendre de force. La seule force qui se manifeste ici, c'est l'amour, qui est par nature faible. Quant à cette fameuse destruction dont il est fait état au verset 25, pour tout à chacun, il est clair que Sodome et Gomorre ont été détruites, rasées, rayées de la carte. Après que l'Éternel a fait pleuvoir soufre et feu sur toute la région. Le problème est que, évidemment, cette destruction ne figure que dans les traductions françaises. Et encore, même pas dans cette version de Louis II que j'ai utilisée. L'hébreu parle de bien autre chose, à savoir de bouleversement. Sodome a été bouleversé. Ce que Dieu fait, c'est de bouleverser. C'est le verbe hébreu « apar ». Et la traduction latine a gardé cela. Elle dit que Dieu a subverti Sodome. Subverti. Une traduction audacieuse du XXIe siècle pourrait dire que Dieu a réformé Sodome. Dieu réforme Sodome, ses habitants et toute la région. Il le fait comme un laboureur retourne la terre pour qu'une nouvelle germination puisse avoir lieu, pour qu'une nouvelle floraison voie le jour en vue d'une production renouvelée. Et cela corrobore assez bien la mention du soufre qui est utilisé pour lutter contre les maladies du potager, figurez-vous, notamment dans l'agriculture biologique. Et le feu, l'éco-buage est régulièrement utilisé pour non pas détruire, mais ressusciter la végétation, lui donner plus de vigueur. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de destruction dans le cas de Sodome et Gomorre, mais bien plutôt de résurrection, contrairement à toute attente peut-être. L'Éternel s'efforce de donner une nouvelle jeunesse à cette région, une sorte de restauration, de lui donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais de la possibilité d'écrire une nouvelle histoire en portant de nouveaux fruits, de cesser d'être stérile comme l'est en fait la femme de Lot, qui est tellement nostalgique du temps passé qu'en se retournant, elle reste prisonnière de cette situation ancienne qui n'avait aucun avenir. Et c'est pour elle que l'addition sera particulièrement salée. Ainsi, une bonne nouvelle retentit dans ce texte, qui pourrait apparaître comme l'échec même de l'amour de Dieu. Certes, l'Éternel n'est pas tout-puissant, et à vrai dire, cela n'émeut pas trop Wilfred Monod, qui dit « Certes, la divinité est diminuée métaphysiquement, mais elle est grandie moralement. » Certes, l'Éternel n'est pas tout-puissant, mais il n'est pas non plus non agissant. Il ne se lasse pas de susciter en l'homme le désir d'une vie renouvelée à la lumière de son évangile. Il est certes ligoté par la décision d'un homme, mais cela ne fait que renforcer la responsabilité de l'homme au sein du monde. Et ici s'ouvre subrepticement le deuxième aspect, l'autre aspect, particulièrement développé par le réformateur Jean Calvin, l'éthique. L'éthique, c'est la réponse de l'homme au fait que Dieu ne peut pas. L'éthique, c'est la réponse de l'homme à cette situation où la suite de l'histoire dépend en fait de sa décision et de ses actes. L'éthique, dans la perspective de Calvin, c'est ce que Dieu nous rend capable de faire en nous ouvrant les yeux sur notre condition et sur notre situation. Parfois, l'espérance de Dieu rencontre un obstacle. Dans cet épisode biblique, les habitants de Sodome sont un obstacle. Mais le plus grand des obstacles que Dieu rencontre, c'est Lot. Le problème dans cette histoire, c'est moins les habitants de Sodome que Lot. Loin d'envisager d'accomplir la réforme des mentalités de Sodome, Lot préfère fuir ses responsabilités. Fuir vers une existence plus petite. C'est donc le sens du nom de la ville Tsoar, où il se réfugie. Lot n'est pas à la hauteur de l'espérance de Dieu. Il ne protège ni ses filles des habitants de Sodome, ni les habitants de Sodome d'eux-mêmes. Dans une certaine mesure, Lot est la figure même du religieux fanatique, prêt à sacrifier femmes, enfants, amis, frères et sœurs et prochains pour sauvegarder l'image qu'il a de Dieu, son image de Dieu. Peut-être que Calvin aussi aurait été fanatique pour sa part en voulant préserver une image de Dieu aux dépens de Michel Servet. Ici, Lot aurait dû être la main tendue de Dieu envers les habitants de Sodome. Mais il préfère se réfugier dans une petite existence, Tsoar. Et voyez-vous, Dieu ne le condamne pas pour autant. Il ne l'abandonne pas, il l'exfiltre et lui permet de vivre une existence plus à sa mesure, en attendant peut-être des jours meilleurs où il aura grandi en humanité. Mais si vous n'êtes pas tout à fait convaincu que Lot a quand même un énorme problème, il suffit de lire la suite de l'épisode et de voir que Lot était pire que les habitants de Sodome, à tel point que dans la reproduction du même, cela se reportera sur ses filles qui décideront d'avoir un enfant avec lui. Il n'y a pas plus grande reproduction du même que de coucher avec ses parents. Pour autant, Dieu le sauve, lui aussi. Mais voyez-vous, il aurait suffi que Lot prenne ses responsabilités et qu'il fasse preuve de détermination pour lutter contre l'injustice des sodomites par une justice d'ordre divin. Combattre le mal par plus de justice. Combattre les ténèbres par plus de lumière. Il n'en était pas capable. La suite de l'histoire était suspendue à son choix de faire face ou non. La suite de l'histoire était suspendue à ses responsabilités. N'étant pas à la hauteur de la situation, n'étant pas en mesure de répondre à l'espérance de Dieu, il valait mieux pour lui ne pas s'engager dans un combat désespéré dans lequel il aurait risqué d'y perdre son âme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entendu dans ce texte qu'il est dit à Lot, « Il faut que tu t'en ailles, sinon tu vas périr à cause de l'iniquité de la ville. » Non pas parce que la ville va être détruite et que tu risques d'être détruit avec la ville, mais parce que tu risques d'être submergé toi-même par l'injustice de cette ville. Tu n'as pas les capacités morales actuellement de faire face à cela. Et il vaut mieux te préserver. Le départ de Lot vers Tsoar est une mesure conservatoire. C'est mon hypothèse. Dans le meilleur des cas, nous avons vu le pire avec Lot, dans le meilleur des cas, Dieu peut donner toute sa mesure par l'intermédiaire de l'humanité. Lorsque celle-ci fait de la place à sa parole de telle manière qu'elle puisse s'incarner, prendre chair, se concrétiser en acte, se réaliser. C'est là, bien sûr, tout le sens de la christologie. Et Calvin a aussi des phrases tout à fait intéressantes sur la christologie. Un peu plus loin, il présente une christologie extrêmement basse, en ce sens que le Christ est celui qui est la métaphore du Verbe de Dieu. La métaphore de Dieu agissant dans le monde. Que nous enseignent les évangiles ? Que Jésus-Christ est Christ précisément en ce sens qu'il accomplit l'espérance de Dieu, qu'il ne fuit pas ses responsabilités, qu'il ne réduit pas son existence à une existence plus petite et qu'au lieu de fuir à Tsoar quand il sait qu'il va être livré, il se réunit dans la chambre haute avec ses amis pour partager le repas de la fraternité. Il ne cherche pas à être épargné de ses responsabilités, il fait face et il fait grandir l'humanité là où tout porte à détruire. Et évidemment, c'est ce que vous ferez ce soir en rentrant chez vous. Il faut lire cet épisode aussi en parallèle avec les disciples en chemin vers Emmaüs. Il y a une forte correspondance sur le fait de voir Dieu, sur le fait de partager le pain, sur le fait d'accueillir la présence de l'autre, sur le fait d'être bouleversé. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant que nous marchions en chemin avec lui ? Bref, je continue avec Calvin et avec sa réponse à ce certain juif. Calvin écrit que Jésus est Christ en ce sens qu'il accomplit l'intégralité de l'espérance de Dieu, ou du moins je reprends ces termes, en affirmant que Jésus est Christ parce que la divinité s'est perpétuée paisible. Calvin qui écrit ça. La divinité se perpétue en Jésus, paisible, jusqu'en sa personne humaine, par le fait qu'il a obéi à la volonté du Père Céleste. Autrement dit, qu'il a mis en œuvre le programme de bonheur voulu par le Père Céleste. Tout cela se résume en une formule que je vous laisse. Dieu propose et l'homme dispose. Amen.